Le 22 octobre 1989, le petit Jacob Wetterling fut enlevé sous la menace d'une arme par un homme masqué et plus jamais retrouvé. Bon, en 1989, je n'avais que 3 ans, donc vous pouvez me croire si je vous dis que ce n'était pas moi. Mais l'enlèvement de Jacob Wetterling il y a près de 20 ans a changé à tout jamais ma vie d'adulte. Parce que les parents de Jacob ont créé la fondation Jacob Wetterling, laquelle a obtenu en 1994 le vote d'une loi sur les crimes contre les enfants et l'enregistrement des délinquants sexuels violents. En pratique, les parents de Jacob ont contribué à l'instauration du tout premier fichier de délinquants sexuels. Je sais ce que vous vous dites, je ne suis qu'un animal, hein. C'est ce que tout le monde pense aujourd'hui. Les délinquants sexuels sont des monstres. Il faudrait non seulement nous interdire tout contact avec des enfants, mais aussi nous proscrire, nous exclure et, de toutes les manières, nous contraindre à une existence sordide sous les ponts en Floride. Regardez ce qui est arrivé à Megan Kanka, kidnappée dans sa propre chambre par leurs violeurs de voisins, ou à Jessica Lunsford, enlevée dans sa maison qui n'était pas fermée à clé par le délinquant sexuel qui habitait avec sa sœur dans un mobil-home de l'autre côté de la rue. Que vous dire? D'après ma conseillère d'insertion et de probation, il y a près de 600 000 délinquants sexuels fichés aux États-Unis. Obligé que quelques-uns se comportent mal. Et quand ça arrive, nous sommes tous punis, même les types comme moi. Je me lève, je vais au travail, j'assiste à mes réunions, je me tiens à carreau. Une vraie réussite. Et pourtant voilà, il est 5 heures du soir, j'ai presque fini mon travail, mais surtout je m'attends à être arrêtée par la police. À 5h15, comme la demi-douzaine de voitures de police n'a toujours pas déboulé tout gyrophare allumé, je laisse tomber et je prends le chemin de la maison. Je me repasse le film de la journée en m'efforçant de dominer mon anxiété grandissante. Après avoir repéré les policiers qui enquêtaient dans le quartier ce matin, j'ai fait ce qu'il y avait de plus sage et je suis allée au travail. Il faut voir que la police ne tardera pas à me retrouver et qu'à partir de ce moment-là, mon emploi du temps depuis la disparition de Madame Jones deviendra un des principaux sujets de conversation. Il se trouve que je suis revenue du déjeuner avec une demi-heure de retard à cause de ma discussion avec Monsieur Jones. Cette anomalie leur sautera aux yeux, mais je n'y peux rien. Il fallait que je parle à ce type. Après tout, mon seul espoir est qu'il l'arrête plutôt que moi. Alors que j'approche de ma porte et que je ne vois toujours aucune trace d'homme en bleu, ou plus probablement d'équipe d'intervention en gilet pare-balles, je me rappelle que nous sommes jeudi soir et que, si je ne me grouille pas, je vais être en retard à ma séance. Je ne peux pas me permettre un nouvel écart dans mon emploi du temps, donc je me grouille, je m'engouffre dans ma chambre pour me doucher, changer en 5 minutes, puis je ressors et hèle un taxi pour l'hôpital psychiatrique de la ville. 8 délinquants sexuels fichés ne peuvent pas franchement tenir leur séance hebdomadaire de thérapie collective à la bibliothèque de quartier. J'arrive à l'hôpital à 17h59, c'est important. Le contrat que j'ai signé stipule qu'il est interdit d'être en retard ne serait-ce que d'une minute à nos séances, et notre animatrice est très stricte sur ce point. Madame Brenda Jane, assistante sociale agréée, a des allures de mannequin blond d'1m80 et une personnalité de matone. Elle ne se contente pas de diriger nos séances, elle contrôle la moindre facette de nos vies, depuis ce que nous buvons ou ne buvons pas jusqu'à qui nous fréquentons ou ne fréquentons pas. La moitié d'entre nous la déteste, l'autre moitié lui est extrêmement reconnaissante. Les séances durent environ 2 heures, une fois par semaine. Une des premières choses qu'on apprend en tant que délinquant sexuel fiché, c'est à remplir un maximum de paperasse. J'ai tout un grand classeur rempli de documents tels que le contrat d'adhésion au programme de soins pour délinquants sexuels, que j'ai signé, les règles à suivre en vue d'un épanouissement personnel, de même qu'une demi-douzaine de chartes de séances collectives, chartes des relations amoureuses et sociales ou chartes des délits commis dans le cadre de la cellule familiale. Aujourd'hui, comme chaque fois, chacun de nous commence par remplir la fiche d'évaluation hebdomadaire. Première question, quel sentiment avez-vous éprouvé cette semaine? Ma première idée est un sentiment de culpabilité. La seconde, que je ne peux pas écrire ça. Les déclarations faites dans les groupes de soutien n'ont aucun caractère confidentiel. Encore un bout de papier que nous avons tous dû lire et signer. Tout ce que je dis ce soir ou n'importe quel soir pourra être utilisé contre moi au cours d'un procès. Ce qui ne fait qu'ajouter au paradoxe quotidien qu'est la vie de tout délinquant sexuel. D'un côté, je dois m'efforcer d'être plus franc, et de l'autre, je peux à chaque instant être sanctionné pour l'avoir été. J'écris la deuxième réponse qui me vient, de la peur. La police ne peut pas me contester ça, hein. Une femme a disparu, je suis le délinquant sexuel fiché du quartier, un peu que j'ai les jetons. Deuxième question, Citez 5 procédés auxquels vous avez eu recours cette semaine pour éviter les situations à risque. Facile. Le jour où on intègre le groupe, on reçoit une liste d'environ 140 procédés ou idées pour rompre le cycle de la maltraitance. La plupart d'entre nous rigolent la première fois qu'ils lisent la liste. 140 moyens de ne pas récidiver, y compris des trucs aussi top que appeler la police, prendre une douche froide ou, mon préféré, se jeter dans la mer en plein hiver. Je donne les réponses habituelles. Je ne suis pas restée seule avec des enfants, je ne suis pas entrée dans des bars, je n'ai pas pris la voiture pour me promener sans but, je n'ai pas eu trop d'attentes envers moi-même et j'ai fait claquer un élastique. Je cite parfois « Je ne me suis pas apitoyée sur mon sort » dans les 5 procédés. Mais même moi, je sais que je n'ai pas réussi cette semaine. Le « je n'ai pas eu trop d'attentes envers moi-même » le remplace avantageusement. Ça fait des années que je n'ai plus d'attentes. Troisième question, citez 5 procédés auxquels vous avez eu recours cette semaine pour mener une vie saine. Nouvelle réponse par cœur, j'ai travaillé à plein temps, j'ai fait du sport, je n'ai consommé ni drogue ni alcool, je me suis beaucoup reposée et j'ai mené une vie tranquille. Enfin, peut-être pas aujourd'hui à proprement parler, mais c'est seulement un jour sur 7 et la fiche est censée être une évaluation hebdomadaire. Quatrième question, décrivez tous les désirs illicites ou égoïstes, tous les fantasmes ou pensées sexuelles que vous avez eus cette semaine. J'écris, j'ai fantasmé que je faisais l'amour avec une femme ligotée et bâillonnée. Cinquième question, expliquez pourquoi, d'après vous, vous avez eu chacun de ces fantasmes. J'écris, parce que je suis célibataire de 23 ans et que j'ai sacrément la trique. Je réfléchis, puis j'efface et que j'ai sacrément la trique pour écrire et que je suis en pleine maturité sexuelle. Madame Brenda Janes, l'animatrice, veille à la correction du langage pendant les séances. Dans notre groupe, personne n'a de bite, de zob ou de queue. Nous avons des pénis. Point à la ligne. En réponse à la question 6, je décris mon état émotionnel avant, pendant et après la masturbation. La plupart des gars répondent qu'ils sont en colère ou anxieux. Il y a cette pression qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de faire quelque chose. Certains racontent qu'ils pleurent après coup, qu'ils se sentent coupables, honteux, affreusement seuls, tout ça pour avoir paluché Popol. Je n'ai rien de ce genre à décrire. Je suis mécano, et ces derniers temps, ma masturbation a le même côté un peu technique. Je ne relâche pas la vapeur, je m'assure simplement que toutes les pièces sont encore en bon état de marche. Septième question, quelle relation sexuelle avez-vous eu cette semaine avec quelqu'un d'autre? Rien à signaler. Huitième question, quelle relation autre que sexuelle avez-vous eu ou tenté d'établir avec des personnes d'un âge approprié cette semaine? Rien à signaler. Neuvième question, pour tout contact avec un enfant, merci de donner le nom et l'âge de l'enfant, son lien avec vous, la nature du contact et le nom du tiers présent. Je n'ai rien à signaler. Et ainsi de suite, encore une évaluation hebdomadaire, encore une séance de thérapie de groupe. Vous savez ce que nous faisons en réalité pendant ces séances? Nous nous trouvons des excuses. Le père qui a couché avec une seule de ses filles se dit meilleur que le prêtre qui a couché avec 15 enfants de cœur. Celui qui a ploté se dit meilleur que celui qui a pénétré. Les prédateurs qui séduisent leurs victimes en leur promettant des bonbons, de la tendresse ou des faveurs prétendent qu'ils valent mieux que les monstres qui recourent à la violence, et ces derniers prétendent qu'ils font moins de dégâts que les séducteurs qui donnent à leurs victimes le sentiment de partager la responsabilité du crime. L'État nous a mis dans le même panier. Alors, comme dans tout groupe organisé, nous cherchons à tout prix à nous démarquer les uns des autres. Vous savez pourquoi ces séances fonctionnent? Parce que personne ne repère aussi facilement un menteur qu'un autre menteur, et il faut reconnaître que dans cette pièce, nous sommes tous des pros. Nous consacrons la première demi-heure à l'examen des évaluations hebdomadaires, et ensuite, pour la première fois depuis des mois, j'ai quelque chose à dire. Je crois que je vais me faire arrêter. Une pause dans la conversation. Madame Brenda Janes s'éclaircit la voix, replace son écritoire à pince sur ses genoux. « Aidan, il semblerait que vous ayez quelque chose à nous dire. »« Oui, une femme a disparu dans ma rue. Si on ne la retrouve pas rapidement, j'imagine qu'on va me coller ça sur le dos. » Je dis ça avec colère. Cela me surprend un peu. Jusqu'à présent, je me croyais résignée à mon sort. Mais peut-être que j'ai quand même quelques attentes en fin de compte. Je me surprends à faire claquer l'élastique à mon poignet, signe indéniable de ma nervosité. Je m'oblige à arrêter.
« Tu l'as tué ?»
demande Wendell. Wendell est un gros type blanc, carrément obèse, avec une barbe noire soigneusement taillée. Il est instruit, assez aisé et doté d'une voix qu'on croirait tout droit sortie d'un ballon d'hélium. C'est aussi lui le meilleur quand il s'agit de se trouver des excuses. Lui n'est qu'un malheureux exhibitionniste persécuté, il ne fait que montrer sans toucher. Qu'il soit mis dans le même sac que des gens comme nous prouve simplement l'inhumanité du système judiciaire. J'ignore si Wendell ne fait que montrer sans toucher. En théorie, lorsqu'il a intégré le programme de soins pour les délinquants sexuels, il a fourni un historique exhaustif de ses délits. Historique qui a ensuite été passé au détecteur de mensonges pour la modique somme de $150. Somme que nous payons de notre poche, pourrais-je préciser, et que nous payons à nouveau tant que nous n'avons pas réussi le test. Personnellement, je pense que Wendell est un psychopathe de première. Malheureux exhibitionniste persécuté, mon œil, Wendell s'en est toujours pris à des victimes d'un genre bien précis. Par exemple, il aimait bien aller dans les maisons de retraite pour exhiber 150 kilos de chair blanche devant les patientes alitées qui avaient à peine la force de se voiler les yeux. Ensuite, il se rendait à la clinique pour adolescentes où il pouvait agiter son 3 pièces devant une gamine de 14 ans bouleversée parce qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte de 8 semaines. Mais son plus grand trip, c'était de sévir devant les centres d'aide aux victimes de viol et d'y jeter une montagne de chair sur des femmes déjà traumatisées. Sa dernière victime s'est pendue en rentrant chez elle. Mais Wendell vous soutiendra qu'il n'est pas aussi pourri que nous. Je ne l'ai pas touchée, réponds-je sans tenir compte du grand sourire entendu de Wendell. Je ne la connaissais même pas, mais peu importe. La police va consulter le fichier et mon nom va sortir. Je vais me faire arrêter juste pour le principe et je ne pourrai même pas payer la caution. S'il m'attrape, je suis foutue. Je me suis remis à faire claquer l'élastique. Je m'avise que Madame Brenda Jane m'observe et je me force une nouvelle fois à arrêter. Je devine déjà ce qu'elle se demande. Et quel sentiment cela vous donne-t-il, Aidan Brewster ? Celui d'être piégé, ai-je envie de hurler. Complètement piégé. Une femme a disparu ? À Saouzi. C'est arrivé quand ? Intervient Gary Provost, un autre membre du groupe. Gary, 37 ans, alcoolique, gérant de portefeuille, s'est fait surprendre en train de ploter la fille de 11 ans d'un ami. Sa femme l'a quitté, emmenant leurs 2 fils avec elle. Le reste de sa famille ne lui adresse toujours pas la parole, pourtant de nous tous, c'est sans doute celui qui a le plus d'espoir. Déjà, il a toujours l'air d'un cadre respectable et non d'un pervers patenté. Ensuite, il semble réellement plein de remords et très attaché à sa sobriété de fraîche date. Gary, c'est le gars sérieux. Tranquille mais intelligent. De tous ceux qui sont dans la pièce, c'est pratiquement mon préféré. Elle a disparu la nuit dernière. Je n'ai rien entendu aux infos. Je ne sais pas, dis-je en haussant les épaules. « Elle a quel âge ?» demande Wendell pour entrer dans le vif du sujet. Je hausse à nouveau les épaules. Elle est maman, donc le milieu de la vingtaine, quelque chose comme ça. « Ça arrange un peu tes affaires, » souligne Jim, si elle est largement majeure. « Et puis tu n'as pas d'antécédents de violence. » Jim sourit en disant ça. « C'est le seul délinquant sexuel de niveau 3 de notre groupe, ce qui signifie que, de nous tous, c'est lui que les autorités craignent le plus. » Les exhibitionnistes comme Wendell ont peut-être le plus fort taux de récidive, mais les pédophiles invétérés comme Jim sont des vrais monstres du placard. De l'aveu même de Jim, il n'est attiré que par les petits garçons de 8 ans et a probablement eu des relations illicites avec 35 gamins en près de 40 ans. Il a commencé en gardant des enfants quand il avait 14 ans, aujourd'hui qu'il en a 55, sa testostérone en berne le freine enfin. Sans compter que les toubibs lui ont prescrit un lourd traitement d'antidépresseur dont les effets secondaires diminuent la libido. Mais comme nous en discutons lors de nos séances hebdomadaires, il est très compliqué de modifier la sexualité d'un individu. On peut essayer de lui apprendre à désirer des adultes, mais guère supprimer chez lui un objet de désir sexuel, autrement dit lui apprendre à ne pas désirer les enfants. Jim s'habille souvent en cardigan de collégien et suce des caramels durs. Rien que pour ça, j'imagine qu'il fantasme encore essentiellement sur les garçons prépubères. « Je ne sais pas si ça comptera, » réponds-je. « Un délinquant fiché reste un délinquant fiché. Je pense qu'ils m'arrêteront avant de poser des questions. »« Non, » intervient Gary, le gérant de portefeuille. « Ils iront d'abord voir ton conseiller d'insertion, c'est comme ça que ça se passe. »« Ma conseillère !» La surprise m'en fait cligner des yeux, je l'avais complètement oubliée. Je suis en conditionnel depuis 2 ans maintenant, et même si je suis tenue de me présenter tous les mois, ma conduite a été d'une telle constance que je ne fais plus attention à nos rendez-vous. Encore des papiers à remplir et des formulaires dûment signés. Avec un type comme moi, l'affaire est bouclée en moins de 10 minutes. Je copie mes bulletins de salaire, remets un courrier de ma thérapeute, prouve que j'ai réglé chaque semaine les frais de mon suivi, etc. Et c'est reparti pour 30 jours. « Que crois-tu que va dire ton conseiller d'insertion ?» demande Wendell d'un air intéressé. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Vous êtes allé au travail aujourd'hui ? S'enquiert Madame Brenda Jane. Oui. Pas d'alcool, pas de drogue, pas d'internet. Je travaille, je marche, je me tiens à carreau. Alors vous ne devriez pas avoir de problème. Naturellement, vous avez droit à un avocat, donc si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à en demander un. Je crois que c'est le mari, m'entends-je dire. Sans raison, encore ce réflexe de se justifier. Vous voyez, ce n'est pas moi le monstre, c'est lui. Mon groupe se rallie à ma cause, hoche la tête. Ouais, répondent plusieurs, c'est toujours le mari, non? Wendel affiche toujours ce sourire narquois. Ce n'est pas comme si elle avait 14 ans, commence-t-il. Wendel, l'interrompt Madame Brenda Jane. Il joue les innocents. Je dis juste que ce n'est pas comme si c'était une jolie blonde mineure. Monsieur Harrington! Wendel lève une main charnue pour finalement reconnaître sa défaite. Mais ensuite, une idée lui traverse l'esprit, il se tourne vers moi et trouve enfin quelque chose d'utile à dire. Dis donc, gamin, tu bosses toujours au garage du coin, non? J'espère pour toi que la disparue n'y faisait pas entretenir sa bagnole. Tout de suite, je revois parfaitement Sandra Jones devant le comptoir gris industriel, ses longs cheveux blonds coincés derrière les oreilles. Tout sourire en tendant ses clés à Vito. Oui, on pourra venir la chercher à 5 heures. Je réalise pour la deuxième fois de ma vie que je ne rentrerai pas chez moi.